Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être ici pour présenter cette première table ronde et représenter l'IUT des métiers du livre. Je remercie la bibliothèque de Mériadec de nous accueillir et d'accueillir aussi nos étudiants pour cette journée avec un premier thème qui sera consacré à l'architecture et les bibliothèques vers des espaces partagés. Ce thème-là est un thème qui finalement va montrer les enjeux nouveaux dans des pratiques, bien entendu, avec nos invités, et vont finalement signaler que depuis longtemps, la question entre le livre et la bibliothèque est très présente. Je me souviens de ce que pouvait dire Victor Hugo en son temps, au XIXe siècle, qui disait que finalement l'architecture est morte. Elle est morte à cause du livre et elle s'est arrêtée au temps des cathédrales, puisque finalement tout le savoir que possédaient les architectes est désormais dans les livres. Alors bien sûr, quand il a annoncé la mort de l'architecture, certains architectes se sont empressés de lui répondre et on peut penser à la magnifique bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris, édifiée par la Brouste juste à côté du Panthéon, qui en plus de surcroît n'était pas du tout dans un style néo-gothique mais plutôt néo-classique. Et puis comme cette journée est organisée aussi par la BPI, on se souvient naturellement de ce magnifique centre de Beaubourg, 1974, avec cette extrême réussite, en même temps que cette audace, pour précisément faire qu'un lieu de culture qui a aussi sa bibliothèque et un lieu de culture contemporaine puisse finalement ne plus effrayer le public. Et on se rappelle de ce geste architectural lui aussi, avec ce parvis qui permet de glisser finalement, de courir jusqu'au centre et d'y entrer un petit peu comme dans un moulin. Cette façon de dédramatiser ou de supprimer un peu la monumentalité d'un espace pour que les gens y viennent, pour que les usagers s'y sentent bien, c'est finalement une chose que l'on retrouve aujourd'hui, qui est un des points phares des enjeux contemporains. Je vous présente les deux personnes qui sont à mes côtés. Et pour ce premier débat, nous aurons en fait deux binômes. À côté de moi, Aurélia El Harrag, qui est conservatrice territoriale des bibliothèques. Vous avez dirigé la médiathèque de Nevers et vous avez pris la direction de la médiathèque municipale du Bouscat, où vous suivez actuellement le projet de construction de la nouvelle médiathèque et de la maison éco-citoyenne et associative. À vos côtés, Monsieur Frédéric Nau, de l'atelier d'architecture King Kong. Cet atelier d'architecture a été fondé en 1994. C'est une agence qui réalise de nombreux projets culturels. Tout récemment, la salle de spectacle de Marciac, qui a été sélectionnée pour le prix d'architecture Hameau en 2012. Le Grand M aussi à Toulouse, qui est une médiathèque très fameuse. Et puis la maison du hip-hop, qui est le centre interrégional des cultures urbaines à Lille, avec un chantier qui est encore en cours. Et puis évidemment, cette agence King Kong, elle a beaucoup travaillé aussi à Bordeaux. Et je dirais que le bâtiment le plus connu, probablement le bâtiment phare, parce qu'il a aussi cette nouveauté extraordinaire, c'est son revêtement en corian, c'est le fameux hôtel Sikou qui est sur les quais et qui s'impose comme un igloo. Voilà. Écoutez, vous allez nous présenter le projet que vous êtes en train de mener avec ces nouveaux enjeux.
Merci, bonjour. La ville du Bouscat est une commune de la communauté urbaine de Bordeaux d'environ 25 000 habitants. Elle est située au nord de la Cube. Elle est d'ores et déjà équipée d'une médiathèque d'environ 200 mètres carrés, 23 000 documents multisupports. Elle a néanmoins décidé d'élargir ses services offerts à la population en matière de lecture publique, mais également de vie associative et de développement durable. C'est la raison pour laquelle elle entreprend à l'heure actuelle la construction au centre-ville d'un ensemble immobilier d'environ 2800 mètres carrés de surface utile, comprenant deux pôles d'activité, une médiathèque et une maison de la vie éco-citoyenne et associative. L'objectif de la ville, rapprocher au sein d'un même bâtiment deux pôles d'activité, deux entités au service du citoyen. Médiathèque et maison de la vie éco-citoyenne et associative sont en effet identifiés comme des lieux d'échange, de partage, de culture, de savoir, de pratique au service du citoyen. Donc, quelques mots peut-être sur le planning de construction. Les travaux vont démarrer à début 2014 et on espère une ouverture au public 20 à 22 mois plus tard, donc fin 2015. La mairie a souhaité, a exprimé la volonté dès la rédaction du programme architectural et fonctionnel de rapprocher ces deux entités, de créer des passerelles et des synergies très fortes entre les deux services, médiathèque et MVEA. Donc si la médiathèque et la maison de la vie citoyenne et associative vont avoir leurs espaces propres et vont pouvoir fonctionner de façon très différente, à des horaires différenciés, elles vont aussi avoir des espaces mutualisés. La médiathèque, Monsieur Nau parlera un petit peu du parti pris architectural, mais va se développer sur un plateau unique, entièrement décloisonné, entièrement de plein pied. Elle aura ses espaces d'animation, ses espaces de lecture, ses espaces de travail, donc un espace multimédia, une salle de travail, une salle d'activité pédagogique, un auditorium d'une capacité d'accueil de 100 personnes, une salle pour l'heure du compte. De son côté, la Maison de la vie éco-citoyenne et associative aura une grande salle polyvalente de 290 mètres carrés pour les manifestations organisées par les associations. Elle aura aussi une salle de formation et de pratique, d'ateliers pratiques pour tous les aspects développement durable et vie associative. Et puis, médiathèque et MVEA vont se retrouver aussi sur des parties communes, le hall notamment, mais également un pôle de ressources documentaires dédié à la vie associative et au développement durable. Ce pôle documentaire sera situé au sein de la médiathèque, au sein de l'espace adulte. Il sera accessible non seulement aux visiteurs de la maison de la vie éco-citoyenne et associative, mais également à tous les publics qui fréquenteront la médiathèque. Alors, quelques mots sur la Maison de la vie éco-citoyenne et associative et sur ses objectifs. La MVEA est conçue comme un outil d'animation et de stimulation de l'implication citoyenne. Elle sera ouverte à tous les publics, aux citoyens, qu'ils soient regroupés ou non en associations. Donc elle sera ouverte aux particuliers, mais également aux associations, aux scolaires, aux institutions. La MVEA sera également un outil de concrétisation de l'agenda 21 de la mairie du Bouscat. Donc la MVEA, pour son volet développement durable, aura pour caractéristique d'être un lieu de rencontre, d'échange autour du développement durable, des questions d'éco-citoyenneté. Elle mettra à disposition des outils de sensibilisation, d'information, de vulgarisation autour de ces questions de développement durable. Et côté vie associative, elle évolue comme un lieu fédérateur de la vie associative bouscatèse, un lieu de mise en synergie des associations, un lieu de mise en valeur des actions de bénévolat et des actions associatives. Je laisse M. Nau parler de la façon dont il a traduit sur le plan architectural la volonté exprimée par la mairie.
Merci. Donc, puisque un des thèmes, c'est biothèque dans la cité, juste un petit mot sur la cité, enfin, en tout cas, le cœur de la cité, puisque la mairie du Bouscat donc, a décidé à sélectionner un site pour implanter cette nouvelle biothèque, qui est tout de même assez exceptionnelle, puisqu'ils ont décidé, vous le pouvez le voir sur cette image de synthèse, de la placer vraiment au cœur de la cité, puisqu'on voit ici, comme vous pouvez voir ici, donc c'est la place principale du Bouscat, avec son église, et en gris ici, c'est la mairie, voilà. Donc on est ici vraiment, on ne peut pas faire plus central, et donc je pense que c'est un choix qui n'est pas hasardeux, hein, qui est un choix totalement symbolique à mon sens de la ville du Bouscat, de mettre vraiment cette médiathèque au cœur de la cité, et vraiment au point le plus central de la ville, avec évidemment l'idée qu'on garde, enfin la volonté, que quand on peut voir la manière dont la parcelle s'étend sur laquelle est installée la bibliothèque, dans la taille de la parcelle, nous allons vraiment reconstituer quasiment toute une façade de la place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette partie-là, cette place qui a été en partie refaite, cette parcelle est restée un petit peu, pas en friche, mais enfin disons une partie en friche végétale et une autre partie qui était occupée par des bâtiments qui sont aujourd'hui obsolètes, qu'on vient juste de démolir d'ailleurs. Et donc on va ici bénéficier d'une parcelle tout en long qui constitue une des quatre faces de la place. Et donc je pense ici ça donne à cette médiathèque un caractère à la fois très, très visible et évidemment symboliquement très important au cœur de la ville. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du projet, ça serait très long, mais pour dire quand même qu'évidemment, comme tout projet, un certain nombre de contraintes outre le contrainte de fonctionnement et de programmation de bibliothèque, des contraintes qui sont liées à l'urbain, bien sûr. Donc, vous pouvez le voir sur ce dessin, la contrainte majeure étant la présence d'arbres assez significatifs que tout le monde souhaitait évidemment garder en place. Les trois façades donc à créer, puisqu'on a la façade sur la place et puis deux autres façades sur rue. Donc, c'est une bibliothèque qui est très ouverte sur son espace extérieur. Donc ces contraintes ont formé et puis un dessin de parcelle. Si vous voyez là ce dessin qui peut vous paraître un peu étrange de la bibliothèque, mais c'est exactement finalement le dessin de la parcelle ou des parcelles qui ont été acquises par la ville et qui donc donne un dessin comme ça un petit peu atypique. Et donc la médiathèque épouse parfaitement toutes ces contraintes, c'est-à-dire le dessin des parcelles qui suit les rues, mais également la prise en compte de la conservation de ces arbres qui donc ont donné cette idée pour nous de se dire que finalement on a un espace, le lieu où sont les arbres deviennent un parvis qui est en prolongement de la place publique et qui vont devenir le parvis et l'entrée de la médiathèque. Voilà. Donc l'idée, c'est que cette médiathèque ne soit pas un objet posé comme ça sur une place, mais soit vraiment une partie intégrante de la place et forme une véritable continuité, hein, puisque c'était le but évidemment d'une relation, on verra tout à l'heure aussi par le verre et la transparence, mais déjà physiquement, qui est une véritable relation entre l'intérieur, entre l'espace public et l'espace intérieur de la médiathèque. Alors, je ne sais pas si on y voit très bien. Donc, on peut voir sur ce plan de masse un tout petit peu plus détaillé. Donc, ce dont je parlais, donc la place ici existante, donc la grande cour qu'on est venu créer, qui vient recevoir, englober les arbres existants, et qui permet donc de vraiment donner une continuité de cette place à la médiathèque, et qui en crée l'entrée, sachant que la mairie se trouve ici, l'église se trouve là. Alors, si on rentre un petit peu à l'intérieur de la médiathèque, donc on y rentre par ce parvis, on y trouve donc à la fois, bon, d'abord un accueil commun, comme l'expliquait Aurélia, et puis également une grande salle polyvalente, enfin un grand auditorium ici qui servira à différentes programmations, différentes fonctions, et de l'autre côté toute la médiathèque qui s'étend donc sur un seul niveau. Donc ça, c'était un des partis pris importants, mais je crois qui est malgré tout assez fondamental sur des bibliothèques de cette dimension-là, de pouvoir offrir, je pense que c'est aussi aux usagers, mais également aux personnes qui travaillent dans la bibliothèque, de pouvoir avoir un espace très fonctionnel, voilà, de plein pied. Alors évidemment, quand on n'a pas le choix, on sait faire autrement, bien sûr, hein, c'est le cas ici, vu la taille, vu l'emprise, mais là, on avait la possibilité de le faire, et donc ça nous semblait intéressant de pouvoir développer cette grande open space, on va dire, hein, qui permet évidemment à l'usager de pouvoir visualiser l'ensemble de l'espace, l'ensemble des différents services qui lui sont proposés, mais également pour les gens qui y travaillent, évidemment, c'est très pratique de pouvoir manipuler les livres, voilà, les CD, etc., tous les objets de plein pied sans avoir systématiquement à monter des étages. Bon. Donc autour de cette grande coupe, donc la médiathèque, elle s'articule à travers une entrée commune, hein, qui est l'entrée de la MVEA, Maison des Associations, et de la médiathèque. Et une fois dans la médiathèque, toute la circulation, tout le cheminement s'articule un petit peu autour de cette grande forme courbe qui distribue donc à la fois cet open space qui recevra toutes les collections, les espaces de, voilà, les différents espaces de lecture, etc., mais également la volonté de faire des lieux spécifiques. Hein, donc, à titre d'exemple, on a ici une salle de travail. On a ici une salle multimédia. On a également un espace pour les enfants, pour les tout-petits qui se trouvent là d'animation. Bon. Donc l'idée, c'est d'avoir évidemment ce grand lieu ouvert, mais également des espaces qui gravitent autour, comme des alcôves. Ces alcôves entretenant des relations un peu diverses suivant les cas. On a travaillé ça tout au long du projet ensemble. Soit un espace vitré avec des portes, soit un espace au contraire avec des parois qui peuvent pivoter. Et d'un seul coup, on ouvre ou on ferme. Bon. Donc l'idée d'entretenir comme ça entre ces espaces spécifiques à la médiathèque des relations qui seront à chaque fois à renouveler, enfin, qui seront à l'appréciation des usagers et des personnes qui y travaillent, de manière à vraiment moduler l'espace en fonction des besoins qui seront prévus. Alors, on a également, en relation avec l'accueil directement, une petite salle d'activité, enfin une petite, elle fait quand même plus de 100 mètres carrés, ouais, voilà, plus de 100 places, dans laquelle on peut accéder directement depuis l'accueil commun. Hein, donc on a soit un accès par la médiathèque, soit un accès par le hall général. Donc ça donne aussi un usage qui peut être différent. Également, comme j'en ai parlé, ce grand auditorium qui est mutualisé, donc qui servira à l'usage soit de la médiathèque, soit de la maison des associations et de la vie citoyenne. Donc ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Donc évidemment, cette médiathèque s'articule de plein pied, mais un certain nombre de locaux ont été nécessaires. Donc nous avons quand même un étage partiel. Donc il faut savoir que nous avons fait le choix donc, d'y mettre toute l'administration qui se déroule, alors à la fois l'administration de la maison éco-citoyenne, mais également l'administration de la médiathèque, donc qui se déroule également, s'articule également autour de cette grande courbe. Et qui permet, on verra sur la coupe, donc ça c'est le plan, on verra sur la coupe ici, que toute cette administration, toute cette partie-là prend place donc, dans un volume qui est en partie au-dessus du grand espace du grand espace libre de la médiathèque, et donc qui permet, avec une coursive, comme on peut voir sur ce schéma, enfin sur cette coupe, qui permet donc aux employés, enfin aux personnes qui vont travailler, d'être à la fois à l'écart, ça me semble important, parce que ils ont besoin un petit peu d'espace privé, mais également en allant sur la coursive, on a aussi une vue assez générale, assez importante sur l'ensemble de la médiathèque. Donc ça c'est quelque chose qui nous semblait intéressant développer dans ce projet. C'était l'idée de l'administration dans les médiathèques. On entend, suivant les personnes avec qui on travaille, moi j'en ai fait plusieurs, on entend souvent différents sons de cloche. Entre la relation que doivent avoir les gens qui travaillent avec l'espace de lecture, soit on veut être proche, soit on veut être à l'écart. Bon. Là, on a un petit peu, on va dire, essayé de trouver le juste équilibre. On est à l'écart, mais on est quand même proche, parce que visuellement, on peut, à chaque fois qu'on change de bureau, ou si on veut, on peut facilement aller voir ce qui se passe dans la médiathèque et pouvoir visualiser quasiment l'ensemble de l'espace. Bon, donc un petit aperçu des façades. Donc ça, c'est la façade sur la rue Formigé. Donc on peut voir ici, dans un second plan, donc les arbres et toute la courbe vitrée qui s'articule autour de ces arbres. On la voit mieux ici. Donc ça, c'est vu depuis la sortie, on va dire le perron de la mairie. Hein. Donc on a une façade totalement courbe ici, donc qui s'articule autour des arbres. Et donc en rez-de-chaussée, on a toute la médiathèque. L'accueil, etc. Et à l'étage, ce sont évidemment les vitrages de l'ensemble des bureaux, de l'ensemble de l'administration. Et cette fenêtre que vous voyez ici, cette ouverture, c'est la salle polyvalente, donc qui sera largement, alors évidemment avec des possibilités d'occultation, mais qui sera largement ouvert face à la mairie, et donc qui sera aussi un endroit, à mon avis, d'appel, hein, c'est-à-dire que depuis la rue, depuis la place, on pourra, l'important étant de voir aussi ce qui se passe à l'intérieur. Évidemment, l'idée, c'est de donner envie aux gens de pénétrer dans la médiathèque. Donc cette transparence est absolument volontaire, assumée. Hein, je crois que ça fait partie aussi de ce qui a plu à la ville de Bouscat, de pouvoir avoir une vraie relation intérieure-extérieure, aussi bien au niveau de la médiathèque elle-même qu'au niveau de l'auditorium. C'est quelque chose qui semblait assez important, de ne pas fermer le fond de la place, mais de lui donner vraiment un fond de perspective, voilà, un fond de scène qui soit les gens en train de lire, voilà, une conférence, des choses de ce type-là. On peut voir, alors ça c'est l'image qui date du concours, elle a été, bon, les choses ont un petit peu évolué, mais peu importe, l'esprit qu'on a souhaité est quand même dans cette image. Donc cette image vraiment de cette relation, donc j'ai parlé de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire de la place vers les activités qui vont se dérouler à l'intérieur, mais également dans le sens inverse, quand on sera à l'intérieur de la bibliothèque, pouvoir aussi être dans la place. Donc on a vraiment cette relation très forte entre l'espace extérieur et l'espace intérieur. Évidemment, la lumière naturelle qui pénètre le plus possible à l'intérieur de la médiathèque, ça nous semble aussi important. Et comme vous pouvez le voir sur cette image aussi que je l'ai expliqué précédemment, la coursive qui donne accès à l'ensemble de l'administration avec un escalier qui permet, ici dans le fond, qui permet d'accéder à une relation directe, évidemment, entre les bureaux et les espaces de la médiathèque. Alors un petit mot, donc ça c'est une autre image un peu de travail, un petit mot aussi qui me semble assez important, c'est sur le... Je vais parler en deux minutes de la signalétique. Évidemment, ces espaces ouverts, ces open space, demandent un vrai projet de signalétique. Nous, ça nous tient assez à cœur, on l'avait déjà développé sur la bibliothèque du Mirail à Toulouse. Là, c'est un travail aussi qu'on a fait tout au long des études. Alors évidemment, la signalétique, elle est importante, bien sûr, pour tout le monde, particulièrement pour les personnes à mobilité réduite. C'est un sujet assez important dans tous les bâtiments publics, mais particulièrement dans les médiathèques. Donc on a développé, qu'on peut voir ici, tout un système de repérage, à la fois visuel, tactile, c'est-à-dire c'est des éléments qu'on va, comme une sorte de grande carte, grande cartographie, tout ça évolutif, on peut changer les noms assez facilement au fur et à mesure de l'évolution des emplacements des différents services. Et à chaque fois, on va retrouver ces chiffres tout au long de la déambulation. Il sera accompagné, bien sûr, d'une sorte de grand fil conducteur, qui sera un fil à la fois visuel et tactile au niveau du sol. Et donc qui permettra, à travers cette grande colonne vertébrale, bon, c'est assez simple puisque la bibliothèque s'articule autour d'une grande courbe, donc ça fait comme une sorte de grande colonne vertébrale, circulation principale, qui donne ensuite accès à des espaces particuliers, et donc qui permettra à tous les visiteurs, qu'ils soient valides ou qu'ils soient éventuellement handicapés, de se repérer assez facilement. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve à l'accueil, avec ou sans l'aide des agents. Et l'idée, c'est de pouvoir déambuler dans la bibliothèque de manière le plus fluide possible, avec un meilleur repérage possible. Voilà. Bon, ben donc, je pense que j'ai à peu près tout dit. Enfin, il y a peut-être des questions. Donc, voilà. Donc, simplement pour dire que, évidemment, ce projet, comme vous le disiez, va démarrer bientôt. Je crois qu'on y tient tous beaucoup, notamment la ville du Bouscat. Et j'espère évidemment que... Enfin, moi, je trouve que le choix du lieu de la part de la ville a été très judicieux. Et puisqu'on parlait de cohésion sociale, et je pense que, à mon sens, ça ne peut que être un symbole fort et vraiment un lieu très important de rencontre et de cohésion sociale au sein de la ville du Bouscat. Bon, c'est un projet ambitieux, mais il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas fonctionner.
Merci. Il y aura probablement, je suppose, des questions dans le public avant de faire intervenir les deuxièmes personnes pour le débat. Avez-vous des questions par rapport à ce projet ? La première est la plus dure. La première est toujours la plus compliquée. Madame ? Oui.
Elle n'est pas compliquée, du coup, elle est très simple. C'est par rapport à la surface. Donc, vous avez dit tout à l'heure 2800 mètres carrés. Ça, c'était l'ensemble du
bâtiment. L'ensemble immobilier au total. 1600 mètres carrés de surface utile environ pour la partie médiathèque. Mmh. Et la partie MVEA, environ 730 mètres carrés. Voilà. Donc, des espaces propres à la médiathèque, des espaces propres à la MVEA et des espaces aussi mutualisés. Et pour compléter ce que M. Naud disait sur la signalétique, le traitement de la signalétique permettra aussi de différencier ce qui relève de la médiathèque, ce qui relève de la MVEA. Le cabinet d'architecture King Kong a proposé deux signalétiques différentes, pour aider le public à identifier ce qui relève de la médiathèque, ce qui relève de la MVEA, et des espaces mutualisés qui ont aussi leur propre signalétique.
Et donc, ça me fait penser, juste parce que sur le plan, je ne vois pas le pôle de ressources documentaires, donc qui allie, il est lui aussi au rez-de-chaussée.
Il sera également au rez-de-chaussée. Lui, il sera situé au sein de la médiathèque, au sein de l'espace adulte, documentaire adulte. Il aura lui aussi un traitement particulier en termes de mobilier, donc un emplacement un petit peu particulier qui nous permettra d'envisager un mobilier là aussi clairement identifiable. Et donc des ressources documentaires qui seront signalées de façon particulière pour être aisément repérables par le public qui fréquente la médiathèque, mais aussi celui qui fréquente la MVEA et qui a besoin de ressources documentaires sur les sujets assez vastes, hein, de la création d'une association, en passant par le bénévolat ou l'éco-citoyenneté.
Après, je vais passer le micro à quelqu'un d'autre, mais donc cet espace, parce que c'est important, je trouve, cet espace de ressources documentaires, il est dans l'intérieur de la médiathèque.
Il est dans la médiathèque.
Il fonctionne aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Voilà, il fonctionnera aux heures d'ouverture de la médiathèque. Donc là, les passerelles et les synergies dont je parlais, elles vont être créées avec la MVEA, elles sont importantes, puisque les bibliothécaires travailleront en étroite collaboration avec les collègues de la future MVEA, d'abord pour l'élaboration du fonds, pour connaître les besoins aussi des publics à desservir, et puis ensuite pour faire vivre ce fonds documentaire.
Peut-être encore une question sur la modulation des espaces, parce que ça, c'est... Donc moi, je travaille à la BPI, où on a des espaces, par définition, très, très peu mobiles pour l'instant. Donc c'est une question vraiment intéressante. Donc, vous avez parlé de la possibilité de moduler des parois ou...
Oui, en fait, on a à la fois cette... Je sais pas si ça fonctionne. Oui. Donc, on a à la fois cette grand espace donc, ouvert avec... Alors, ce qui est intéressant, on l'avait développé également, ça se fait dans beaucoup de médiathèques, mais on l'avait développé à la bibliothèque du Mirail, un réseau, ça me semble important, c'est très pragmatique, mais un réseau de prise de courant, de caniveau technique qui permet de pouvoir faire évoluer déjà au sein même de cet espace le mobilier en ayant toujours de l'alimentation, de pouvoir. Donc ça, c'est important parce qu'une bio aujourd'hui, elle est comme ça, mais dans 10 ans, on ne sait pas comment les choses auront évolué, à la fois les personnes qui vont gérer la bibliothèque, mais également les nouvelles pratiques, la proportion des livres par rapport au CD, au DVD change énormément, et puis d'autres éléments qui vont certes peut-être arriver plus tard. Donc ça, c'est important de le prévoir tout de suite, à travers un réseau de caniveaux techniques ou de prises qui permet cette évolutivité à travers cet espace. Et après, les petits espaces qui sont autour, on en voit un là, ils entretiennent chacun, enfin suivant les cas, ils entretiennent différentes relations. On a par exemple ici, c'est un espace de travail qui est fermé par des parois vitrées, semi-fermé parce qu'on a des parois vitrées, mais on n'a pas de porte, donc c'est une sorte de paravent, on va dire, donc qui permet un petit peu d'intimiser un espace pour pouvoir y travailler. Cet espace, qui est l'espace multimédia, est totalement vitré, mais en bout ici, on a une paroi mobile vitrée également qui se replie, qui d'un seul coup rend cet espace, on va dire, en continuité avec l'espace principal. Donc soit il y a un atelier, on le ferme, soit il est à usage libre, à ce moment-là, on l'ouvre. Également cet espace dédié pour les enfants, là, vous voyez toutes ces portes, en fait, des grandes portes sur pivot, c'est une grande paroi. Elle peut être totalement fermée s'il y a également un atelier à l'intérieur, mais on peut totalement l'ouvrir, et à ce moment-là, elle participe à l'espace général. Donc c'est toutes ces... C'est toutes ces petites, ces petites choses, mais qui me semblent importantes de manière à faire vivre la bibliothèque en fonction des usages, des heures, des jours. J'imagine que le mercredi, ce n'est pas comme le lundi. Même le dimanche, ça sera ouvert, je crois. Oui. Donc on aura des moments différents, avec des publics différents. Et je pense qu'il faut réfléchir avec les personnes qui vont y travailler, la manière la plus souple, la plus adaptée possible à tous les publics, à toutes les heures d'ouverture. Et je crois que ça, c'est un vrai travail à faire tout au long des études qui est assez important.
Au moment de la rédaction du programme architectural et fonctionnel, la ville avait insisté sur sa volonté d'avoir des espaces flexibles, évolutifs, aussi conviviaux. Mais cette notion de flexibilité, d'évolutivité des espaces, de décloisonnement avait été souhaitée, et la traduction architecturale... le bâtiment aujourd'hui proposé par King Kong est la traduction de ce que la ville avait exprimé. Et effectivement, pour compléter le propos de M. Nau, la ville souhaite ouvrir la médiathèque très largement au public et donc aussi la MVEA du lundi au dimanche. Voilà.
Merci. Y a-t-il une remarque, une question ? Oui, madame.
Oui, bonjour. Donc, bien sûr, je suis aux côtés d'Aurélia et puis de l'architecte, puisque je suis adjointe au maire à la culture. Bon, il y a une dimension aussi, madame me posait la question, y a-t-il un espace café ?
Oui.
Alors, il y a un espace, donc je vais laisser parler Aurélia, bien sûr. Hein. Il y a un espace jardin aussi, peut-être que dont vous allez parler, parce qu'il est important. Hein. On a beaucoup aimé cette possibilité de sortir, mais dans un espace relativement intime. Donc, je laisse parler Aurélia, bien sûr.
En effet, alors, Monsieur Nau expliquait tout à l'heure la volonté de la ville de conserver des arbres. Donc, les arbres, ils vont être en façade et l'entrée à la médiathèque et à la MVEA va se faire par un grand parvis extérieur aux allures un petit peu de jardin arboré. Une fois dans la partie médiathèque, on aura la possibilité aussi d'aller dans un patio, en quelque sorte, à l'arrière qui a été créé à l'arrière du bâtiment. On l'a appelé café-jardin parce qu'il est dans le prolongement de l'espace actualité, périodique, revue et périodique. Et il permettra aux usagers de prendre un café et de s'installer voilà, avec leur documentation ou les journaux. Donc oui, l'espace aussi café est voulu et on espère que le public s'emparera de cet espace très visible en fait, dès l'entrée. Voilà.
Voilà, à préciser que c'est un espace qui est pratique pour ça, parce qu'il est sous contrôle, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans la bibliothèque. Hein, donc, quand on aura. Il sera sous le regard de l'accueil, malgré tout. Mais donc, ici, on a l'espace café intérieur et on peut ensuite sortir. Ici, c'est totalement vitré. Et ici, on a une sorte de patio, hein, puisque ça, c'est un mur de clôture vis-à-vis des voisins. Donc, on sera dans une sorte de patio, donc assez enfermé. Mais ce qui est pratique, à mon sens, c'est que c'est un espace. Après, vous verrez comment vous le gérez. Mais vu qu'il est sous contrôle, j'imagine qu'on pourra aller y lire avec son café. Donc, je pense que ça, c'est toutes les médiathèques ne proposent pas ce type de service, mais moi, ça me semble assez bien.
Oui. Monsieur, excusez-moi. Oui, bonjour. Je suis Monsieur Trouillet de la BPI, donc de la Bibliothèque publique d'information. Et moi, j'avais juste une question technique à l'adresse de Monsieur Nau, à savoir la contrainte vis-à-vis des arbres qui sont en façade. Comment vous avez solutionné la répartition de la lumière au gré des saisons ? Parce que les arbres me paraissent immenses, il y en a à la fois.
Oui, alors attention, ils sont immenses là sur l'image parce que c'est les arbres d'origine, mais depuis ils ont. En fait, ce sont des platanes, vous voyez, donc ils ont été à la demande d'ailleurs des experts, des experts, on va dire, experts des arbres, je ne sais plus comment ça s'appelle.
On n'a pas, nous, c'est l'orientation nord-sud.
Non, alors en fait, la façade est assez nord, en fait. Hein. Il faut savoir que le nord est vers le haut. Donc on a une façade qui est. C'est aussi ce qui nous a permis de la vitrer, parce que dans la région, on se protège pas mal du soleil en général. Donc c'est toujours compliqué de faire des grandes parois vitrées, enfin des grandes façades vitrées au sud. Ça pose des gros problèmes de surchauffe, évidemment. Donc là, on a pu se permettre de vitrer, donc c'est ça tout l'enjeu. On a pu se permettre de vitrer parce que justement, on était assez bien exposé nord avec des orientations légères, ouest, est, mais qu'on arrive à gérer avec des verres de très bonne qualité thermique, évidemment. On n'aurait pas pu faire la même chose au sud. Donc si vous voulez, je pense qu'on aura une lumière qui va rentrer, qui sera une belle lumière, la lumière du nord, de l'ouest, de fin de journée, de début de voilà, sans s'exposer non plus à la surchauffe. Donc on aura, à mon sens, la possibilité de ne pas tirer des stores tout le temps, parce que c'est très bien d'ouvrir, mais si on doit tout le temps tirer des stores, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc là, on pourra, à mon sens, garder presque toute une partie de l'année ces vitrages totalement libres. Les arbres, vous inquiétez pas, ils ont diminué au moins de deux tiers, ils ont été élagués, coupés. Bon, ils repousseront, mais après, je pense qu'il y a. Là, ils ont été laissés un petit peu sauvages, on va dire un petit peu tels quels, mais on sait que ce type d'arbres, voilà, après la mairie, j'imagine. De toute façon, il faudra, pour pas qu'ils viennent abîmer le bâtiment, nuire au bâtiment, je pense qu'il faudra régulièrement les élaguer et couper, les entretenir de manière à ce qu'ils restent contenus dans un certain. Voilà. Mais il faut savoir que les arbres, c'est très bien, parce que L'été, il y a des feuilles, enfin ceux-là en plus. L'été, il y a des feuilles, donc ils nous protègent. Et l'hiver, les feuilles tombent et ça laisse l'entrée de la lumière. Donc c'est la meilleure, meilleure protection solaire, on va dire, qu'on puisse faire. Ce sont les arbres, en fait.
Pour compléter, juste si la ville a souhaité conserver les arbres, elle a souhaité également que le bâtiment soit exemplaire en matière de construction et de normes HQE. Donc façade sud, des panneaux photovoltaïques vont être installés. Et les déplacements doux, puisqu'on vise aussi à accueillir le public de cette future MVEA, vont être favorisés par l'intégration d'un abri à vélo à l'intérieur même de l'enceinte du bâtiment. Donc un garage à vélo abrité, sécurisé, intégré au bâtiment.
Merci beaucoup. Écoutez, j'ai la tâche... Il faut que j'arrête, voilà, la lourde tâche de respecter le planning. Merci beaucoup, c'est tout à fait passionnant. Merci. Et nous allons accueillir sans plus attendre Madame Charbonnier et Monsieur Guibert. Merci. Installez-vous. Voilà, le temps de vérifier la technique. Je vous présente tous les deux. Marie-Dominique Charbonnier, vous êtes bibliothécaire depuis 25 ans. Vous avez d'abord dirigé la Logithèque de Metz, une des premières bibliothèques françaises spécialisées en informatique et en nouvelles technologies de l'information. Puis vous avez pris la direction de la bibliothèque municipale de Mourinx, où vous êtes également responsable du réseau de lecture publique sur le territoire de la communauté de communes de Lac, qui comprend 13 bibliothèques, 47 communes et 36 000 habitants. Et vous travaillez actuellement sur un grand projet avec M. François Guibert. Vous êtes architecte et gérant de l'atelier FGA, créé en 1994, avec une antenne parisienne créée en 2011. Vous êtes passionné par les enjeux culturels et sociaux. Vous avez construit de nombreuses médiathèques. Je citerai pour exemple celles de Carcassonne, d'Artigues, Gradignan, Montpellier, Tulle. Vous avez aussi... Oui.
Celle de Carcassonne, je l'ai gagnée. Elle n'a jamais été construite et elle est à nouveau en concours. C'est pas vrai. Et je n'ai pas été retenu à concourir. Juste une petite précision.
Ah bon? vous avez aussi fait beaucoup d'ouvrages pour des équipements culturels dans la région, Aquitaine, à Pau, Anglette. Vous avez édifié le Forum des Arts de Talence, plus près de nous. Vous êtes aussi l'architecte de groupes scolaires comme celui de Floirac, Lormont, Bordeaux. Vous travaillez également dans le secteur tertiaire et médical. Bref, vous êtes une personne qui a une très, très large activité et qui avait, donc, avec Madame Charbonnier, travaillé à ce grand projet pour la communauté de communes du Lac, d'un centre culturel avec, là aussi, une variété de propositions pour un public qui demande peut-être de plus en plus de possibilités pour son accueil culturel. Voilà, je vous laisse présenter ce projet.
Oui, donc, le projet donc, du centre culturel du bassin de Lac s'inscrit dans une aventure particulière, une histoire particulière sur un territoire qui a été marqué par la découverte du gisement de gaz de Lac en 1951, qui a amené en 1957 à la création d'un complexe industriel. Et donc, il s'agit de trouver de quoi loger les milliers de travailleurs qui allaient venir travailler sur le complexe de Lac. Et donc, la Société nationale des pétroles aquitains, qui était en charge du gisement, a fait appel à des architectes pour construire une ville nouvelle. Donc, ils ont construit une ville à quelques kilomètres du gisement de gaz, à partir de rien, à proximité d'un petit village à l'époque de 200 habitants qui était Mourinx. Et en quelques années, là où il y avait des marécages, s'est élevée une ville de plus de 10 000 habitants. Dès le début, les architectes ont souhaité faire de Mourinx une véritable ville et pas simplement une cité dortoir. Et donc, ils l'ont équipé d'une administration, de commerce, d'équipements éducatifs, culturels et sportifs. Voilà. Et ils ont aussi souhaité, puisque c'était quand même une grande ville, plus de 10 000 habitants, sur un territoire de 6 km², sur un petit territoire, mais ils ont voulu faire une ville à dimension humaine, avec des unités de voisinage, donc des îlots avec un immeuble de 12 étages qui symbolise le clocher du village, un quadrilatère d'immeubles, avec une cour-jardin au milieu où les enfants pouvaient jouer, où les gens pouvaient se retrouver, qui symbolisait donc la place du village. Et donc, on voit cette ville de Mourenx qui, entre 57 et 61, plus de 3000 logements ont été construits, mais qui quand même reprend la hiérarchie qu'il y avait dans les usines, c'est-à-dire les ouvriers au centre dans les tours et les bars, vers un peu l'extérieur, les cadres intermédiaires et les contremaîtres dans les maisons en bande, et sur la colline, les cadres et les ingénieurs. Donc, cette histoire a fait de Mourenx la ville centrale sur un territoire qui était un territoire largement agricole. Voilà. Donc là, vous voyez le pointeur. Donc la CCL, c'est cette partie-là, le département. Donc Pau est de ce côté, Bayonne par là. Donc là, Bordeaux, on est ici, et les Pyrénées Atlantiques là, et la communauté de communes de Lac ici. Donc c'est une commune essentiellement rurale, comme on peut le voir, avec la plateforme industrielle de Mourenx-Pardis et la plateforme industrielle de Lac. Donc le Gave de Pau qui partage le territoire en deux. Donc les axes de circulation, c'est le long du Gave. Donc une partie industrielle très forte, mais sinon un territoire très rural. Donc 47 communes. Mourenx, une ville d'aujourd'hui 7600 habitants. Trois bourgs importants, Arthez, Artix et Monin, qui ont entre 2000 et 4000 habitants. Et sinon, la plupart des communes font moins de 500 habitants. Donc ce sont des villages, donc une activité très rurale, un territoire donc très, très diversifié. En même temps, un bassin industriel très fort qui a su toujours se développer et innover, puisque dès le début, les décideurs ont su qu'ils étaient assis sur une bonbonne de gaz, mais qu'un jour, la bonbonne serait vide et qu'il faudrait penser à ce qu'on pourrait en faire de ce territoire après. Donc, il y a eu des reconversions multiples, notamment sur la chimie fine et sur la production de fibres de carbone avec l'installation de l'usine Toré et l'extension qui est en cours. Donc, en même temps que le territoire se développait et innovait, la ville de Mourenx s'est lancée, les élus de la ville de Mourenx ont souhaité entamer un processus de renouvellement urbain, car la ville avait vieilli, elle avait 50 ans. La population aussi avait vieilli. Après avoir été la ville la plus jeune de France dans les années 60, Mourenx s'était rattrapée par le temps. Avec une population avec des revenus modestes, voire très modestes, et 65% de logements sociaux, donc une ville à réhabiliter et à travailler. Donc selon trois enjeux majeurs pour les élus, donc asseoir la position centrale de Mourenx qui a une activité structurante sur le bassin, développer une nouvelle mixité urbaine et sociale et attirer donc de nouvelles populations et changer l'aspect de la ville et la forme urbaine. Donc pour cela, l'idée était d'adapter et de compléter les équipements existants, d'adapter et de diversifier également l'offre immobilière et de logement et de requalifier l'espace urbain. Donc vous le voyez à travers les quelques diapositives qui vont suivre, donc la réhabilitation de l'hôtel de ville après 50 ans, l'extension de la communauté de communes de Lac, la construction d'une halle tennis et d'un stade nautique, et puis des projets qui sont en cours sur le logement. Vous pouvez passer. Voilà. Sur le logement, donc des réhabilitations et des constructions de logements individuels et collectifs, la réhabilitation des écoles qui a commencé et la réhabilitation de la crèche avec la construction d'une maison de la petite enfance qui accueillera aussi le relais d'assistance maternelle. Et évidemment, le projet du centre culturel sur ce territoire. Donc la genèse de ce projet, c'est d'abord que les élus ont toujours eu à cœur de développer l'intercommunalité et de développer une politique culturelle intercommunale qui s'appuie sur le réseau de bibliothèques, donc sur la lecture publique, et donc qui s'appuie sur la mise en réseau des bibliothèques du territoire. Donc aujourd'hui, le réseau, c'est donc le réseau Pôle Lecture qui donc a été créé il y a 15 ans, qui aujourd'hui comporte 13 bibliothèques, donc qui s'appuie sur la tête de réseau, Mourenx, avec des têtes de territoire, Arthez et Amona, des bibliothèques des relais, 6 bibliothèques relais et 5 points lecture, donc qui forment un réseau qui porte un catalogue collectif de 70 000 documents, une navette, un service de réservation en ligne, une navette hebdomadaire qui dessert les points du réseau, une politique d'animation commune importante et un soutien technique aux bibliothèques du réseau. Et comme le territoire est toujours en évolution, donc au 1er janvier 2014, la communauté de communes de Lacq va fusionner avec la communauté de communes du canton d'Orthez. Et donc, on aura une nouvelle intercommunalité avec 61 communes et 55 000 habitants et un réseau de 23 bibliothèques. Donc, en s'appuyant sur cette offre de lecture publique et de mise en réseau, les élus ont souhaité donc au départ construire une médiathèque intercommunale, mais très vite, ils ont eu l'idée d'agréger dans un même équipement des équipements qui déjà culturellement étaient importants sur la ville de Mourenx et qui déjà avaient un rayonnement plus que sur la ville, mais un rayonnement départemental, voire régional. Et donc, ils ont proposé de permettre à l'ensemble de la population intercommunale un service culturel performant. Donc, pour permettre une offre diverse et plurielle, de permettre des croisements inédits de savoir avec la jonction d'équipements avec des objectifs différents en matière de littérature, de son, d'image, de technologie de l'information et de la communication, de sciences techniques, d'industrie, d'art contemporain, et de permettre par la mise en commun de ces équipements une confrontation de problématiques communes et de créer un véritable outil culturel à destination de l'ensemble de la population du territoire. Donc les équipements qui composent le centre culturel, donc la médiathèque et son réseau et la cyberbase qui aujourd'hui est extérieure à la bibliothèque mais qui demain sera partie intégrante de la médiathèque, donc sur surface utile de 2200 m². Le centre de culture scientifique et technique industrielle, la CODICE, qui est le deuxième CCSTI de région après Cap Science à Bordeaux. Le cinéma de Mourenx, la galerie d'art contemporain municipale. La compagnie de théâtre Les Pieds dans l'eau, qui aujourd'hui a aussi un rayonnement départemental et régional, un restaurant et un musée d'art modeste sous la houlette de Hervé Di Rosa, qui a été l'artiste que la mairie a souhaité associer à ses 50 ans, quand elle a fêté son 50e anniversaire. Donc, les objectifs de ce centre culturel qui ont été définis par les élus de l'intercommunalité, c'est 3 objectifs, de proposer un service collectif de qualité qui réponde aux besoins des publics de l'intercommunalité, donc en créant un centre de ressources pour la vie culturelle, sociale et éducative du bassin, qui soit ouvert à tous les partenaires du bassin, un lieu de convergence accessible à tous et très visible, donc une volonté d'avoir un équipement qui soit à la fois un équipement qui regroupe des entités qui ont des fonctionnements autonomes, mais en même temps qui aient des espaces mutualisés et qu'on partage un certain nombre d'espaces, comme un espace d'exposition, des espaces mutualisés et un hall commun, et donc pour permettre une synergie de ces différents exemples, de ces différents équipements culturels. Le deuxième objectif, c'était de sensibiliser les publics de l'intercommunalité à différentes formes d'expression culturelle, justement en associant ces différentes entités et donc en construisant une structure qui propose une offre culturelle variée et renouvelée avec des animations, des spectacles, des expositions, des accueils d'auteurs, des rencontres et des débats. Un lieu ouvert à tous les supports de la connaissance qui soit capable d'évoluer et de s'adapter. Donc un milieu qui soit adaptable, qui soit pas figé dans le temps, mais qui soit capable toujours d'adaptation. Et un centre de ressources qui concerne les thématiques donc, qui sont traversantes aux différents équipements qui composent le centre culturel. Et le troisième objectif, c'est de favoriser et de développer le lien social. Donc, en créant un lieu d'animation accessible à tous les publics, un espace de formation, d'auto-formation, de découverte, d'apprentissage et de perfectionnement pour tous les publics. Donc on a vu sur le territoire de la population, sur le territoire de la communauté de communes de Lacq, des populations très diversifiées. Donc vraiment avoir un lieu qui réponde à tous les besoins de cette population. Un lieu d'insertion sociale, de convivialité, de sociabilité et de loisirs. Donc faire que Les gens viennent au centre culturel pour trouver des services, des réponses à leurs besoins et simplement, ou simplement passer un bon moment et un espace d'apprentissage de la citoyenneté et de la tolérance ouvert à tous les publics. Et donc le concours a été lancé en 2011 et voilà. Et c'est Monsieur Guibert qui a remporté le concours et qui nous a proposé le projet. Donc, il va vous parler maintenant.
Alors, je prends le relais, mais avant de vous présenter le projet par lui-même, moi, je tiens à remercier les organisateurs de nous donner une plateforme d'écoute à nous, architectes. Je voudrais recontextualiser un petit peu l'acte de bâtir dans le cadre de la culture. Parce que faire une bibliothèque, une médiathèque n'est pas un acte innocent, au même titre que construire n'est pas un acte innocent. Il se trouve que je participais il y a quelques jours à Marseille à un colloque sur le thème qui était « Bâtir est un art ». Il y avait dans les tables rondes un professeur, le professeur Antonio Godin, qui est un Italien, qui a passé une partie de sa vie à restaurer la basilique palladienne de Vicence. Et il expliquait avec beaucoup de verve italienne comment... un bâtiment, tout projet d'importance, et Dieu sait si faire une bibliothèque est un projet d'importance, avait une naissance difficile et une vie complexe. Et donc je pensais qu'avant de présenter cette médiathèque qui va au-delà d'une médiathèque, puisque c'est un centre culturel à Morcenq qui implique beaucoup de fonctions, il était important de revenir un peu sur la valeur symbolique de l'acte de bâtir, qui était une valeur symbolique certes, politique et spirituelle, puisque là on parlait d'une basilique, mais cette basilique a eu des maintes transformations, et tout à l'heure ça a été dit, un bâtiment il doit pouvoir évoluer, il doit avoir la capacité d'évoluer, alors je ne sais pas si une bibliothèque doit devenir demain un centre commercial ou autre, mais pourquoi pas, mais tout bâtiment a une capacité de maturation et d'évolution. Et il en était arrivé à la construction, à la conclusion, que construire est un véritable art. Et moi, je rajouterais que c'est un véritable art de vivre, car vivre est un art. Alors, aujourd'hui, la société a évolué. Nous sommes dans un schéma qui est de plus en plus cartésien. Donc, pour un architecte, ça a été le triomphe de la société du cartésianisme intellectuel, maintenant économique. Et pour nous, architectes, nous devons arriver à transcender toutes ces données-là pour offrir finalement, arriver à ce qu'est l'essence d'un bâtiment, qui est la culture. Et finalement, quand je dis cette notion, ce constat, ce qui est un constat typiquement occidental du côté cartésien de notre société, ce n'est pas un rejet de la société, il faut faire avec. Et notre rôle en tant qu'architecte, lorsqu'un maître d'ouvrage nous donne un programme, et un programme aussi humain, je dirais, qu'une médiathèque, il est de transcender toute cette partie économique, réglementaire, et j'en passe, qui invite une multitude de métiers, transcender pour arriver à une dimension et préserver le cœur du bâtiment et de la médiathèque qui doit être à l'être humain. C'est pour ça que je dis que c'est une culture. Et notre rôle en tant qu'architecte est de convoquer à la réalisation d'une médiathèque ou d'une bibliothèque la raison et surtout l'intuition que petit à petit nous avons perdue. Alors, pour moi, et c'est, je le revendique haut et fort, construire est un art. Un art dans tout le contexte de ce que je viens de dénoncer. Et finalement, bâtir une médiathèque, alors je ne sais plus s'il faut employer le terme bibliothèque, médiathèque, parce que j'adore bibliothèque avec toutes les réminiscences que ça peut avoir étymologiques, mais médiathèque aussi, ça parle bien, parce que les médias, aujourd'hui, on est dans un environnement de médias, on n'est pas uniquement, donc j'aime bien le terme médiathèque. Alors ne m'en veuillez pas si je l'emploie et que vous pensez que le terme générique est meilleur que bibliothèque, mais dorénavant, je vais parler de médiathèque. Donc c'est un art, et c'est un art qui doit convoquer également la magie. Elle doit s'installer, cette magie, et la magie, elle se fait à travers quoi? Finalement, les émotions. Quand on vit un bâtiment, quand on va rentrer dans un bâtiment, quand on le... Un bel édifice, et qu'est-ce que c'est finalement? Je ne sais pas trop ce que c'est que la beauté, mais par contre, je sais ce que c'est que les émotions, et je sais ce que c'est qui provoque les émotions. Et les passes, vous voyez, j'ai essayé de résumer ça à travers des masques. Ce sont toutes les émotions qu'on peut ressortir à travers un parcours dans un bâtiment. Alors après, dans notre société aussi très cartésienne, où on met tout en pot, où on met tout en recette, créer un édifice, c'est inventer une philosophie de l'espoir. Alors ça, en matière de médiathèque, je pense que c'est fondamental. Si on ne crée pas une philosophie de l'espoir, si on ne porte pas un espoir dans ce que l'on va bâtir, je crois qu'il faut aller faire autre chose. Je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce que moi je ne saurais pas faire autre chose que mon métier. Mais voilà, j'ai voulu symboliser le mot qu'on me faisait des crèmes de tout. Mais là, maintenant, on va faire des crèmes d'espoir. Mais nous, on a envie de bâtir des bâtiments d'espoir. Alors, bâtir une médiathèque, c'est aussi bâtir une synthèse. C'est la synthèse des différents métiers, c'est la synthèse des exigences d'un maître d'ouvrage, c'est la synthèse de règlement, d'urbanisme, c'est la synthèse d'un moment de l'histoire d'une ville. Marie-Dominique l'a très bien dit, dans la genèse de Mourenx, on voit toute une époque d'urbanisme. J'y reviendrai en présentant le projet, mais on ne peut pas le nier, donc il faut en faire la synthèse également. Et bâtir une médiathèque, c'est bâtir aujourd'hui des lieux, vous voyez, où il se passe plein de choses. Alors, il y a une image que j'aime bien, c'est celle-ci, parce que je trouve que ça résume bien mon petit pot d'espoir. Celle-ci, où on voit que la personne âgée, ben, elle est sur l'ordi et le gamin, il est dans le journal. Et si une médiathèque, on arrive à créer cette image-là, je crois que c'est gagné. Alors, il y a une chose que j'adore faire quand j'ai réalisé un bâtiment, c'est y aller 2-3 ans après, et puis regarder ce qui se passe. Et une des plus belles images que j'ai vues, c'était il y a quelques années, je crois que c'était à la médiathèque de Gradignan, où on a la salle multimédia. Il y avait une personne qui devait avoir à peu près entre 60 et 75 ans, et puis un petit gamin qui devait avoir 12 ans, qui avait la casquette à l'envers, et qui lui expliquait comment marchait Internet. Alors moi, j'ai dit, quand on arrive à ça, on a quand même gagné culturellement et en termes de lieu de convergence et de rapprochement, beaucoup. Alors, bâtir une médiathèque, ce n'est pas construire une gare de triage, parce que empiler des documents, que ce soit des livres, que ce soit des CD, que ce soit tout ça, bon, c'est merveilleux, c'est technologique, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas ça. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'être humain qui doit être au centre du dispositif, et finalement, quand je dis ce n'est pas construire une gare de triage, c'est parce qu'on doit y créer ce supplément d'âme qui crée la personnalité, qui crée notre personnalité, qui sera créée par les rencontres que l'on pourra faire avec le livre, avec le CD, avec les autres au sein de la bibliothèque. Et donc, créer une médiathèque, pour moi, c'est une alchimie. Alors, l'alchimie, c'est très compliqué, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il faut mettre des normes, tout ça, et puis on crée un lieu. Mais c'est un lieu où finalement, si on fait allusion à l'alchimie, la pierre philosophale, c'est l'être. Et l'être, grammaticalement, ça a plusieurs significations. Il y a l'être qui est le nom commun, et socialement, c'est une personnalité individuelle, qui est intime, unique. Mais aussi, être, c'est un verbe. C'est un verbe qui est synonyme d'exister, ici et maintenant, à l'écoute de l'autre, que je crois sincèrement être mon alter ego en humanité. Et lorsqu'on a compris ceci, on a envie de créer des lieux, on porte quelque chose, et c'est ce que doit porter la médiathèque ou la bibliothèque. Et la médiathèque, c'est aussi un lieu de transmission. Il permet d'exister, il nous permet d'exister, ce lieu de transmission, en qualité de personne, ayant le droit de recevoir, puisqu'on vient recevoir dans une médiathèque, mais surtout aussi le droit de transmettre de ce fonds collectif qu'est la connaissance. Alors, je ne vais pas aujourd'hui parler de ce qu'est la connaissance, parce qu'il en faudrait beaucoup trop de temps, mais cette transmission, elle se fait à toutes les échelles, de l'échelle politique à l'échelle individuelle, puisque la création d'une médiathèque est un acte politique, et à l'échelle individuelle du pratiquant, et chacun selon ses moyens, chacun selon sa condition, et chacun selon son rythme. Alors, finalement, j'essayais de trouver les mots qui résumaient ce que pouvait être une médiathèque, et je me disais, est-ce que c'est pas retrouver la parole perdue ? Parce que tout à l'heure, je parlais de notre société occidentale, qui est absolument normée, qu'on veut, nous, gens du bâtiment, nous mettre de plus en plus dans des normes, dans des règles. Je crois qu'en France, il y a 400 000 règles et règlements. Bon, je ne suis pas un prêt ou à 10 000 prêts. Et on se rend compte qu'on est arrivé à avoir une position sur tout. Et moi, je revendique le fait de ne pas avoir un avis sur tout. Parce qu'à force, on engendre une cacophonie où plus personne ne se comprend. et on n'a plus de parole. Et la parole est perdue. Et peut-être que bâtir, inventer des médiathèques, c'est retrouver le premier acte et de retrouver cette parole perdue. Je ne sais plus qui disait, là j'ai mis, je crois que c'est Daniel Monique, ce dessin de ce personnage triste qui a perdu la parole perdue à gauche, il est de Daniel Monique et je crois qu'il a dit qu'il y a deux voies d'accès à la connaissance, c'est l'intuition et la raison. Et on en revient au début de mon intervention. Alors bâtir une médiathèque, on l'a vu à travers le projet, le premier projet, vous le verrez à travers celui que je vous présente aussi, c'est bâtir le palais de la parole et de l'esprit. C'est un calque de notre société qui est basé sur toute la culture grecque, où finalement l'art de la parole était l'art de la communication et l'art de la rencontre. Donc il faut réinventer l'agora. Et enfin, pour terminer, je dirais que terminer cette généralité hein, avant d'aller sur la médiathèque de Mourenx, c'est avant tout imaginer un acte d'espoir. Et je crois aussi sincèrement que c'est inventer une métaphysique d'un lieu dont la substance première est l'être humain installé au centre de la réflexion. Je crois que ça, c'est fondamental, et à travers le projet que je vais vous présenter, très rapidement, parce que c'est vrai, mon confrère l'a dit tout à l'heure, c'est très difficile de présenter un projet aussi rapidement. Il y a tellement de matière humaine, il y a tellement d'être, il y a tellement d'émotions dedans, que pour arriver à vous la faire partager, il faudrait beaucoup plus de temps. Alors je vais être très bref maintenant dans la suite de mon intervention pour vous montrer ce que sera le Centre culturel multimédia de Mourenx, qui tient donc là aussi un contexte, Marie-Dominique Charbonnier l'a dit tout à l'heure, il y a un contexte urbain qui est fondamental, qui se rapproche de celui du Bousca, puisqu'il s'agissait de recadrer une place, de réinventer un centre-ville. Vous voyez, on voit bien sur cette photo aérienne toute cette... ce que vous avez vu tout à l'heure dans les photos, une organisation très rigoureuse, très méthodique. Et vous voyez où nous allons nous mettre, cet espace, ce bâtiment que nous avons rosé. Il a été détruit et l'objet du concours, il fallait se mettre là. Alors vous voyez, ce n'était pas facile parce que je ne sais pas il y a combien, il y a 12 fonctions, je crois. Et il n'était pas question de réimaginer une barre. Alors évidemment, il a fallu à un moment donné créer des niveaux. Parce qu'en plus, entre le nord et le sud, qui est dans cet axe, alors la barre que vous voyez, elle est ici, elle a été démolie, la voilà, et le sud est là et le nord, et entre ici et là, il y a environ 5 à 6 mètres de dénivelé. Donc il fallait le faire, il fallait trouver la position qui nous permettait de nous adapter le mieux au contexte et à la topographie. La mairie est là. On retrouve des barres de part et d'autre et nous nous sommes installés sur l'ensemble de ce site en nous déployant autour du thème. Et je reviens sur, je fais le raccord avec ce que j'ai dit dans la première partie de mon intervention, faisant le thème sur la notion de rencontre qui se décline plus qu'une volumétrie, à travers des parcours. Et tout le projet est bâti sur une dynamique de parcours en créant, au-delà d'un bâtiment, une tranche de ville. On recrée un véritable quartier, puisque le contexte est tel qu'il fallait recadrer une place. Suite à notre projet, il y a eu un concours pour l'aménagement de la place, qui se situe, la place François Mitterrand, qui est énorme, qui se situe ici. Et nous avions imaginé le bâtiment en disant qu'il ne peut pas y avoir une entrée. Comme c'est un quartier de ville que l'on fabrique, que l'on invente, il faut qu'il y ait multi-entrées. Donc finalement, la porosité avec la place se fait de façon très forte par cette partie-là, puisqu'on peut rentrer dans le bâtiment non pas par une seule entrée, mais par toute une façade. Alors voilà les axes, le croquis un petit peu qui résume ce que je viens de vous dire, où finalement, plus que, donc j'insiste bien, une volumétrie, nous avons défini des lieux. Donc il y a la place basse. Alors tout ceci, nous l'avons défini au niveau du concours, bien que le concours ne porte pas sur l'aménagement de la place, mais on ne pouvait pas tenir compte de tout cet environnement urbain sans les intégrer dans le projet. Donc il y a la place basse qui va être basse parce que, comme je vous ai dit, il y a une différence de niveau de 5 à 6 mètres entre cette partie-là et là et cette partie sud. Donc on va pouvoir entrer dans le centre culturel de tous côtés Et sur cette partie, au-dessus du bâtiment, on va pouvoir y marcher, puisque la place de l'hôtel de ville est la place haute. Cette place haute que nous avons intitulée Square des Arts. Donc là, on est sur une partie du bâtiment. Et pour aller vers un devenir qui doit un jour se faire, qui est le jardin des cultures. Donc vous voyez que tout le projet de raménagement urbain se fait à travers des liaisons qui sont, comme c'est à la mode aujourd'hui de dire, des liaisons douces, puisqu'on pourra y aller à pied, on pourra y aller à vélo. Mais on a une restructuration qui se fait autour d'un parcours. Alors vous voyez la complexité du projet. Je l'ai intitulé « C'est un lieu d'agitation culturelle ». Parce qu'autour de la médiathèque, il y a un cinéma, le CCSTI, qui est un laboratoire, la compagnie théâtrale, des espaces d'exposition, deux cinémas, je l'ai dit, un restaurant, un grand restaurant, cyberbase, espace d'exposition, accueil, la médiathèque par elle-même, son accueil d'un espace culturel multifonction. Donc on a imaginé de caler toutes ces fonctions autour de toujours pareil, cette notion de déambulation, qui pour moi est fondamental dans ce projet. Et on a presque imaginé l'idée de retrouver un petit peu ce qui se faisait il y a un ou deux siècles. Ce sont les galeries couvertes, ces grands espaces, il en reste deux à Bordeaux, où autour d'un espace protégé des intempéries, les commerces et les activités allaient se connecter. Donc c'est un petit peu, tout à l'heure je parlais de réminiscence, c'est peut-être une réminiscence de ces éléments-là qui marchent fort bien. Et quelque part on l'avait appelé, c'est ce que vous avez en jaune, on l'a appelé le n'est pas perdu. Et finalement avec le retour... Et la réflexion, je pense que c'est très mal choisi parce que lorsqu'on se promène dans un lieu de culture, les pas, ils ne sont jamais perdus. Ce sont plutôt des pas gagnés. Donc je pense qu'on va le rebaptiser les pas gagnés. Il faudra en parler à monsieur le maire, je pense qu'il va être ravi. Le bâtiment, comme vous avez vu, on n'avait pas la place de tout mettre à rez-de-chaussée. Donc nous l'avons bâti sur plusieurs niveaux. Le terrain était étroit. Enfin, je vais vous passer tous les détails. Nous avons donc en rez-de-chaussée ces pas gagnés sur lesquels toutes les connexions, toutes les fonctions, je ne vous les détaillerai pas, ça serait trop long, vont donc se connecter. Et on rentre dans la bibliothèque, dans la médiathèque par ici, où nous avons des ouvertures, des porosités, toujours cloisons qui s'ouvrent, qui s'effacent, et un accueil. Et dès qu'on a pénétré dans l'accueil, on a des espaces d'exposition et autres. Et c'est l'actualité. Oui, parce que alors, l'actualité, c'est un élément très important. Parce que finalement, moi, j'ai envie d'installer un bar, envie d'installer une cafétéria, j'ai envie d'installer plein de choses. Parce que c'est le café. Quel est le lieu de rencontre? Et je dirais, j'ai pas peur d'employer le terme de culture, aussi efficace qu'un café. On va y lire le journal. On s'y rencontre, on boit un petit coup, c'est l'humanité, c'est la vie, c'est la vie de quartier, c'est tout ce qui se passe. Donc là, on l'a mis le plus proche possible de l'entrée, et ensuite, on développe, comme on ne pouvait pas aller au-delà dans l'espace qui nous était imparti, on développe à l'étage la médiathèque, par elle-même, avec un plateau libre, qui s'organise, comme le bâtiment est très épais, on a un plateau libre qui fasse organiser autour d'un vide, d'un patio, qui est éclairé zénitalement en allant chercher de la lumière aux meilleures expositions, qui est une lumière nord, de façon à éviter les coups de soleil et autres. Et on développe l'ensemble du projet public autour d'un plateau le plus libre possible. Et je réponds d'avance à la question qu'a posée madame tout à l'heure au premier rang, et qui est dire qu'une médiathèque, ça doit être un plateau de tous les possibles. Ça ne doit pas être cloisonné. Le cloisonnement, finalement, c'est le mobilier qui le fera. Un des facteurs fondamentaux d'une médiathèque, c'est la position du mobilier, c'est sa capacité d'évolution. Alors aujourd'hui, on ne sait pas comment vous tous dans la salle, et moi aussi de mon côté, comment je vais exercer mon métier demain. Donc il faut avoir cette faculté, ça a été dit par mon confrère tout à l'heure, d'avoir une possibilité de faire évoluer l'espace en fonction des besoins, parce que finalement, cet espace, il doit être au service, une fois de plus, je le dis, recentré vers l'être humain, vers les utilisateurs. Je suis trop long? Vous me regardez? Non? C'est bon?
Non.
Parce que ça peut durer, alors.
5 minutes.
5 minutes. Oui. Donc, très rapidement. Ensuite, alors, une similitude, je ne le savais pas, avec le projet précédent, c'est que nous avons mis en mezzanine, comme quoi ça doit être quelque chose qui marche bien. toute la partie administrative avec une déambulation qui se fait sur des couloirs où il y a des visions directes, parce que nous avons un espace, cet espace est très haut, il fait 7 mètres, et donc nous allons avoir la possibilité d'avoir ces vues directes. Alors je n'en dirai pas plus parce que je partage tout à fait ce qu'a dit mon confrère tout à l'heure sur cette porosité visuelle et qui est indispensable. Alors une petite coupe rapide pour montrer un petit peu le principe. Donc vous voyez ce vélo qui va rentrer dans les pas perdus. Alors on ne va plus l'appeler les pas retrouvés, on va appeler le vélo retrouvé aussi. Et donc qui distribue toutes ses fonctions à rez-de-chaussée. Et l'espace par lui-même dont je parlais qui est ici, tout l'espace de la lecture publique, avec une particularité, un prolongement qui se fait ici, qui est en liaison avec la place François Mitterrand en étage, et qui est ce que j'ai appelé le jardin suspendu. Et de ce jardin suspendu, sa fonction est d'amener le végétal dans le bâtiment. Donc quand on sera dans les salles de lecture, on aura une vision à travers des arbres, parce qu'on va camer, ça a été un problème technique important, vous voyez qu'il y a une épaisseur de terre importante, parce que je veux qu'il y ait des arbres. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, parce que c'est la meilleure protection solaire. Là, on est en façade ouest. Donc, on a des grandes parties vitrées en façade ouest. Alors, contextuellement, ce n'est pas trop gênant, parce qu'en face, nous avons des immeubles. Et comme le soleil il se couche à l'ouest et quand il se baisse, les immeubles vont faire un masque. Mais en premier plan, on a un second masque qui va être fait par les arbres qui vont être plantés dans ce jardin suspendu. Alors, voilà, pour terminer, les petites images du square à des pas retrouvés. Là, on a une vue sur le restaurant qu'il y a, sur l'entrée de la médiathèque qui se fait à droite, ici. Et donc, cette ouverture, cette transparence, cette porosité vers l'espace public, parce que une médiathèque, c'est un lieu d'ouverture, c'est un lieu de transparence, ça doit être un lieu de désir. On doit provoquer le désir de rentrer, le désir d'y rester. Voilà, depuis le square des Arts, donc là on marche sur le fameux déambulatoire, on arrive sur le square des Arts qui pourrait être, c'est un plus qu'on a apporté au niveau concours, pensant que ça pourrait être un lieu aussi d'exposition temporaire extérieure et qui est là aussi, vous voyez, c'est vitré, on va vers la médiathèque et qui pourrait être un lieu un petit peu de porosité culturelle en étroite relation avec la médiathèque et l'espace public. Toujours cette notion de porosité aussi est fondamentale. Pour terminer, une vue sur le jardin suspendu. Alors moi, quand j'étais étudiant, j'étais un fervent lecteur de Gaston Bachelard, et en particulier la poétique de l'espace, qui est vraiment un livre de chevet pour qui veut imaginer et comprendre un espace. Et je pense qu'il faudra que j'aille voir un psychanalyste ou un psychiatre, parce que j'adore mettre des cabanes dans les projets. Et je pense que la cabane qui est dans ce jardin suspendu, c'est quand même un lieu magnifique, parce que c'est un lieu, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des espaces très hauts, mais pour créer des émotions, pour être dans du bien-être, il faut aussi jouer sur un rythme. La musique, l'architecture, c'est comme la musique. Il y a des silences, il y a des noirs, des blanches, il y a des pauses et autres. Et on a des petites cabanes en bois comme ça qui vont se promener dans le jardin suspendu, où là on pourra avoir un peu plus d'intimité. Ou par contre, un conteur peut prendre une dizaine de personnes, d'enfants, et faire l'heure du conte sans gêner ce qui se passe dans ce plateau de tous les possibles. Voilà. Alors, juste, je voudrais pour terminer une petite citation qui me paraît très intéressante, parce que je l'ai découverte hier soir. On parle souvent de génie du lieu. Et faire une médiathèque, c'est vraiment inventer un génie du lieu. Et alors, il y a une phrase qui est d'Alain Roger dans Le génie du lieu qui dit: si les génies hantent ces lieux, c'est parce qu'ils habitent notre regard. Et s'ils habitent notre regard, c'est parce qu'ils viennent de l'art. Et cette phrase que j'ai découverte hier soir par hasard me permet de boucler mon intervention quand je parlais que bâtir est une culture et est un art. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Guibert et Marie-Dominique Charbonnier, pour cette intervention. C'est passionnant. Nous n'avons que le temps d'une question. J'en suis désolée par avance, mais il faudra laisser, ou pas, mais il faudra laisser la place à la deuxième table ronde. Donc, y a-t-il une question dans l'assistance? Oui.
Bonjour, Alain Dupaillet, directeur de la BDP de la Gironde. On parle aujourd'hui de lien social. Mon interrogation, elle est née, on se connaît bien, de vos propos, mais elle vaut autant pour le Bouscat que pour Mourinx. On parle de lien social, mais y a-t-il eu ou pas, et ce n'est pas une question induite, à un moment ou un autre dans l'élaboration du projet, ce qu'on appellerait aujourd'hui une concertation de participation citoyenne, ou en tout cas au sens élargi auprès de la population ou auprès des partenaires locaux, associatifs et autres.
A priori, je ne sais pas, c'est Marie-Dominique qui répondra. A posteriori, nous avons fait des présentations à la population, certes, mais avant, il y a eu l'élaboration d'un programme, comme dans un projet, qui était un programme de qualité, qui a été fait par Émergence Sud, qui est vraiment un très grand programmiste en matière de lieux culturels. Et je pense que ça a duré. Et là, je vous passe la parole parce que
Alors, je n'y étais pas. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites à Mourinx, notamment menées par Émergence Sud, avec les partenaires sociaux. Après, la population, beaucoup moins. Mais en tout cas, avec les partenaires sociaux, oui, c'est un projet qui a été travaillé, avec eux. Et oui, qui a été travaillé avec les partenaires, oui, de la commune et du territoire.
Merci. Le cabinet Émergence Sud a également travaillé en amont de la programmation architecturale et fonctionnelle sur ce travail de concertation avec les associations, les partenaires et donc l'identification des besoins.
Oui. Très bien. Je vous remercie. Nous allons nous arrêter là. Merci encore Aurélia Elarag, Monsieur No, merci Marie-Dominique Charbonnier et Monsieur Guibert.